Bonjour, je suis Céline et bienvenue dans ce dernier épisode de L'Esprit Financier, le podcast de Crélan sur l'univers de l'investissement. Aujourd'hui, nous abordons un thème de plus en plus incontournable, l'investissement durable. De plus en plus, investisseurs veulent que leur argent contribue à un meilleur monde. En tenant compte de l'environnement, de l'aspect social et de la bonne gouvernance, ce que l'on appelle les critères ESG. Mais comment reconnaître un placement durable? Et faut-il faire des concessions sur le rendement pour investir de manière responsable? Nous vous donnons des clés pour faire des choix éclairés, sans compromis sur vos valeurs ni vos objectifs financiers. Nous en parlons aujourd'hui avec Younes Lemti, expert en investissement chez Crélan. Younes, bonjour.
Bonjour Céline.
Notre thème aujourd'hui, c'est la durabilité, ou plutôt l'investissement durable. Mm-hmm. On entend parler depuis des années de ce thème. Est-ce quand même une certaine désillusion à ce sujet?
Oui, alors en effet, c'est vrai que si on regarde l'actualité, et puis si on regarde le phénomène de durabilité, c'est vrai que le sujet a perdu un peu de sa splendeur, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, on avait de grandes ambitions, ce qui est logique, hein, en tant qu'Européens, on produit pas de pétrole, et donc forcément, on avait des grandes ambitions quant à tous ces développements, ou en tout cas l'abandon des énergies fossiles. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de remise en question de fond, parce que vous comprenez que ce problème d'autonomie énergétique, ou en tout cas de développement, de durabilité, ben c'est quelque chose qui va rester. Mmh. Mais à côté de ça, il y a une sorte de désillusion, moi je dirais plutôt un reality check. Et donc vraiment une sorte de retour à la réalité qui a mis en évidence quand même que voilà, peut-être ça allait pas être cette transformation totale de l'économie, n'allait peut-être pas être quelque chose d'aussi rapide et d'aussi facile. Mmh. Et puis ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que c'est un domaine assez nouveau, en fait, la durabilité. Hein. Mmh. Ça ne fait que peut-être 15 ans que voilà, c'est sous le feu des projecteurs, et 10 5 ans depuis Fukushima, hein, environ, que ça devient vraiment quelque chose de très très important. Mais avant ça, voilà, ça n'existait quasiment pas, la durabilité. Et donc aujourd'hui, c'est un phénomène assez nouveau. Et donc forcément, pour des phénomènes nouveaux, mais voilà, il y a des périodes encore d'incertitude, de doute, de recherche également, et puis qui vont créer à terme des opportunités. Mais au niveau de transformation de fond, ben, on se rend bien compte que même s'il y a des ralentissements ou un peu moins de discussions à ce sujet, ben, en fait, la transformation de fond, elle continue.
Mais justement, quand on parle de l'investissement durable, de quoi parle-t-on exactement?
Oui, alors je renvoie à un ancien épisode qu'on avait fait où j'avais défini un peu voilà, un investissement, ce que c'était. C'est donc comme c'est le fait de mettre de l'argent de côté pour qu'il travaille à notre place. Et donc on a deux caractéristiques principales qu'on va regarder, ce qu'on appelle le rendement et puis le risque. Ça veut dire comment est-ce que cet argent a bougé. Attends, aujourd'hui, on va rajouter un troisième critère qui sont des critères extra-financiers qu'on appelle des critères de durabilité. Ces critères de durabilité, on va les répertorier en trois colonnes. Une colonne E pour environnemental, S pour social et G pour gouvernance. Et donc, on voit aujourd'hui que la durabilité, ben en fait, c'est trois axes. Même si maintenant, on a toujours tendance à croire que c'est environnement, environnement, c'est environnement. Ça. Voilà, c'est trois axes. L'axe social et de gouvernance, mais ça devient des choses aussi qui deviennent de plus en plus importantes. Par exemple, la gouvernance, c'est le fait de gérer correctement une société. Est-ce qu'aujourd'hui, on accepte qu'une société, par exemple, elle fasse la discrimination envers les femmes? Ben voilà, si elle le fait, ben son score de gouvernance, de gestion interne, ben il n'est pas bon. Et donc, c'est des critères qui sont un peu plus larges que l'environnement. Ouais.
On cite souvent ces derniers temps Donald Trump comme étant un recul sur l'agenda durable. Est-ce justifié?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc qui est subi forcément plusieurs changements. On a le président aux États-Unis, ben, on a entendu qu'il fait une sorte de marche arrière en ayant cette expression de drill, baby drill. Et pourquoi? Ben, parce que voilà, il sous-entend qu'il faudrait avoir plus d'énergie pour créer une économie plus florissante. Néanmoins, quand on regarde vraiment dans les chiffres, c'est vrai que voilà, il y a cette volonté, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que tout a été abandonné du jour au lendemain. Si on fait des parcs éoliens ou des parcs de projets solaires aux États-Unis, ben c'est pas parce que Trump arrive que voilà, du jour au lendemain, on va arrêter la construction d'un parc solaire qui était en pleine construction. À côté de ça, c'est vrai que ça vient redistribuer les cartes. Quand on voit le prix du pétrole qui diminue, ben on on se pose la question de savoir à partir de quand il sera rentable d'avoir de l'énergie verte, parce que la rentabilité ne dépendra forcément que du prix du pétrole. Si le prix du pétrole monte très vite ou à un niveau assez élevé, ben, il est plus facile d'être rentable avec des énergies vertes que si maintenant le prix du pétrole est très bas ou des énergies fossiles.
Ouais. L'investissement durable coûte plus cher ou n'est-ce qu'une idée ?
Alors, comme je vous avais dit, c'est des informations extra-financières. Donc, en soi, on ne sait pas vraiment refléter ça directement dans le coût.
C'est pas comme avec les légumes bio.
Voilà, c'est pas la même chose parce que dans les légumes bio, ben ça demande une gestion,
en tout cas
un autre traitement, et puis d'autres coûts qui sont mis en place ici pour des fonds d'investissement par exemple, ou pour des sociétés qu'on caractérise de durables. Ben en fait, elles vont être soumises à un certain nombre de règles, elles vont devoir respecter ces règles. Par exemple, pour les sociétés, c'est d'émettre des documents. Si elles disent qu'elles sont durables, toutes les sociétés cotées aujourd'hui en Belgique doivent le faire. C'est émettre des documents qu'on appelle SFDR, qui sont vraiment des Sustainable Financial Disclosure Reporting, hein, en anglais. Pour l'acronyme. Et donc, ce sont vraiment des documents qui vont devoir mesurer cette durabilité qu'ils ont eue. Donc, déjà, à ce niveau-là, ben, c'est une obligation. Donc, ça coûte plus cher, mais pour tout le monde, déjà, premièrement. Donc, est-ce que ça coûte plus cher ou pas ? Ensuite, deuxièmement, par rapport à savoir que ça coûte plus cher, ben, c'est vrai qu'en fait, des fois, quand on a des fonds d'investissement, ben, il y a une gestion, on va dire, une couche extra de gestion, une couche qui va être de sélectionner qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui n'est pas durable dans le fond. Et ça, forcément, ben, c'est un petit coût.
Ça se paye.
Ben,
oui.
Ça se paye parce qu'on a besoin d'avoir des analystes, etc. Mais à côté de ça, on a ici une vision de voir quel est l'intérêt de cet ajout d'informations extra-financières. Et ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est qu'en fait, elle permettait ben, d'éviter, par exemple, des coûts supplémentaires à l'avenir. Une société qui est durable et qui a pris en amont la réflexion, par exemple, qui fait des produits en plastique, qui a pris en amont la réflexion de la gestion de ses eaux usées, ben voilà, elle ne va pas être confrontée à des amendes de pollution des eaux usées plus tard. Donc, ça crée des coûts, mais ça empêche également des risques qui pourront créer des coûts.
Et comment peut-on savoir si un placement est effectivement durable ?
Oui, alors si un placement est effectivement durable, ben déjà premièrement, comme je dis, il y a des règles européennes pour les sociétés cotées. Quand le capital est accès au public, ben en fait, elles doivent publier des documents qui montrent quelles sont leurs durabilités.
C'est à l'investisseur de faire ses devoirs alors ?
À ce moment-là, on va dire que c'est à l'investisseur, en tout cas, de lire un peu, de faire ses devoirs, comme vous dites. Après, à côté de ça, nous, quand on parle de fonds d'investissement ou de produits d'investissement agrégés, ben, en fait, la loi, elle a déjà pris ça en amont. C'est un domaine assez nouveau, mais la loi, enfin, les régulateurs, les différents régulateurs ont déjà réfléchi un peu à ces domaines. Et donc, ils caractérisent les investissements en trois types. Ce qu'on va appeler, nous, les articles 6, les articles 8 et les articles 9. Les articles 6, ce sont en fait les produits, les fonds d'investissement qui n'ont pas d'obligation ou en tout cas qui n'ont aucune ou quasiment aucune considération de l'amélioration de la durabilité. Ce qu'on appelle, nous, en fait, des sociétés non vertes, hein, des fonds non verts. Puis on a ce qu'on appelle des articles 8 qui sont en fait des sociétés qui prennent en compte mais qui n'ont pas pour objectif principal d'améliorer ces mesures de durabilité. Mais elles prennent en compte la durabilité. C'est ce qu'on appelle les articles 8. Là, on les appelle des fonds verts. Vert clair. Et puis, il y a les articles 9, et ça, c'est des sociétés ou des fonds d'investissement qui ont vraiment pour objectif principal, en plus des objectifs financiers, bien sûr, mais surtout objectif principal, d'améliorer certains indicateurs en ESG, soit environnementaux. Par exemple, on va financer des sociétés qui vont permettre de recycler des eaux usées, ou bien pour des facteurs sociaux. Voilà, des sociétés via des prêts, par exemple, qu'on appelle des prêts verts, on va permettre à une société d'éviter l'exclusion sociale, par exemple, dans un quartier bien précis. Et donc, voilà, on a cette classification qui est faite par le régulateur, article 6, article 8, article 9. Et ça peut être fait voilà, sur les différents fonds. En tout cas, ils sont tous catégorisés en fonction de ces articles.
Y a-t-il des critères d'exclusion ?
Oui, alors en fait, quand on fait de l'investissement durable, on a deux grandes manières de sélectionner. Première manière de sélectionner et de caractériser quelque chose de durable, c'est d'exclure ce qui n'est vraiment pas durable. Par exemple, on a un certain nombre de sociétés qui font, imaginons, des armes antipersonnelles et qu'on a jugé ou que l'ONU a jugé comme étant des armes prohibées. À ce moment-là, elles sont totalement exclues. Il y a des listes de références sur lesquelles on peut regarder qu'elle fait partie de cette exclusion. On cite souvent les fonds souverains norvégiens, ils ont une liste assez exhaustive, en tout cas, auquel on peut consulter. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler l'exclusion, on va les exclure. On peut exclure aussi par rapport à sa propre stratégie. Hein. Imaginons que je dise, voilà, j'ai pas du tout envie d'avoir de l'énergie fossile, parce que je vais faire tout simplement dans mon esprit, c'est que je vais exclure toutes les sociétés qui vont appeler l'énergie fossile. Ensuite, ben, on peut bien se rendre compte, par exemple, si on parle d'énergie fossile, on peut pas tout on peut pas toutes les exclure, en fait. Il y a des pans de la société auxquels on aura encore besoin, par exemple du transport aérien, etc. Donc, on peut pas tout exclure d'un coup. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on applique une politique qu'on appelle best in, the, in class. Best in class, ça veut dire le meilleur de la classe. Et donc, ça veut dire qu'on va prendre dans un même secteur les différentes sociétés et voir laquelle a les critères les plus engageants, que ce soit au niveau de l'environnement, de développement social ou de sa propre gouvernance.
C'est ça. On regarde surtout les efforts que l'entreprise fait dans ce cas-là. Ouais. Maintenant, ces préférences durables, comment peut-on les inclure dans le profil d'investisseur?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, depuis 2022, le régulateur a également rajouté une partie dans le profil d'investissement qui est... la mesure de la préférence de durabilité de nos clients. Et donc, quand le client vient pour investir, ben, il est obligé de faire un profil d'investissement, comme vous le savez. Dans ce profil d'investissement, on va poser des questions concrètes. On va demander, est-ce que la durabilité ben, a un impact pour vous? Si oui, si non. Si oui, ben, on va demander à quel degré? Est-ce que c'est pour 80% de votre portefeuille, 10%? Et puis, on va quand même essayer d'investiguer un peu pour voir si c'est plus dans l'environnement, dans le social ou dans la gouvernance. Ça va vraiment permettre de traduire des préférences ben, en produits d'investissement, en tout cas en sélection de produits d'investissement.
Quelle place est-ce que la durabilité a au sein de Crélan?
Oui, alors, on a beaucoup tendance à dire que voilà, durabilité, c'est une émotion, c'est ou bien une tendance ou quelque chose qu'on a dans le cœur. Nous, ici, chez Crélan, ça fait vraiment partie de l'ADN, si je peux dire, si on va plus profond. Et quand on regarde le nom de Crélan, ben, en fait, c'est la contraction entre crédit en français et Landgebau en néerlandais. Donc, c'est le crédit agricole. On voit très bien qu'on a un rapport très proche à l'environnement et au milieu. Parce que déjà, de base, notre business model, au tout début de la création de la banque, en l'occurrence, ben, elle était fortement axé sur des sociétés agricoles. Ensuite, pourquoi je dis que ça fait partie de notre ADN? Parce qu'on est également une banque coopérative. Donc, ça veut dire qu'en fait, au niveau de notre modèle de gouvernance, ben, les coopérateurs qui sont nos clients aussi, sont des actionnaires et nos clients, ben, en fait, on va les considérer de manière assez importante. Et donc, de par le modèle qu'on a, le modèle bancaire coopératif qu'on a, voilà, ça fait de facto partie de notre ADN.
C'est ça. La durabilité, on ne peut pas ne pas en parler ces jours-ci. Donc,
surtout chez Crélan.
Surtout chez Crélan et aussi dans le portefeuille d'investissement. Merci beaucoup, Younes.
Avec plaisir.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième série de L'Esprit financier. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ces 8 épisodes. Nous espérons vous avoir inspiré à investir avec confiance, conscience et clarté. Vous souhaitez réécouter un épisode ou découvrir d'autres contenus sur l'investissement? Consultez notre site web. Et surtout, n'oubliez pas, développer un esprit financier, c'est un voyage à vivre étape par étape, idéalement accompagné par votre agent bancaire. Merci d'avoir écouté.